Bonjour. Dans le cadre du projet Portrait d'Europe, nous, les élèves de seconde 5, nous sommes demandés qui sont les Barcelonais? Comment le devient-on? Nous nous sommes aussi intéressés aux immigrants habitant à Barcelone.
Pour cela, nous avons eu l'occasion de voir le spectacle Entre dos aguas, réalisé par Adeline Flon. Nous avons aussi rencontré un chercheur spécialiste de l'immigration en Espagne, Karim Jouté.
Voici un aperçu de ces rencontres.
Le 26 janvier 2017, nous avons donc pu découvrir avec le spectacle Entre dos aguas, joué au lycée français de Barcelone, un genre de théâtre peu développé, le théâtre social. Occasion aussi pour nous de nous initier à l'analyse de représentations théâtrales. Cette pièce mettait en scène plusieurs immigrés de pays différents et durant toute la pièce, ils nous ont raconté leurs histoires personnelles.
Les comédiens sont arrivés en traversant la salle et en chuchotant aux spectateurs le nom de leurs proches et ils portaient des casseroles vides. Arrivés sur scène, ils se sont mis en ligne et ont donné leur nom et les parties du corps. À partir de là a commencé le spectacle. Aidé d'une voix off et de vidéo, chacun des immigrés nous a raconté son histoire, les raisons de son départ et des anecdotes personnelles.
Nous avons ainsi pu découvrir des situations de guerre qui les ont forcés à quitter leur pays, les adieux aux familles, l'arrivée à l'aéroport, leurs difficultés en arrivant à Barcelone, la solidarité entre immigrés, symbolisée par l'utilisation des casseroles.
Pues, ¿qué consejo le daríais a una persona que está pasando por un duelo migratorio y que en un principio lo está pasando mal?
Es muy complicado. Un duelo migratorio es un desarraigo, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Le diría que lo que tendría que hacer esa persona es intentar integrarse, ¿no? Hay un dicho que dice, allá donde fueses haz lo que vieres. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer cuando vivimos un duelo migratorio, estamos en otro país que no es el nuestro, primero integrarte y segundo, también intentar conocer personas de aquí, hacer cosas.
A ver, cuando se habla de duelo migratorio, es algo muy específico, además es, digamos, un concepto que es un poco polémico. Lo que está ligado es el hecho de no tener éxito en la sociedad acogida. Es el hecho de tener un trabajo, de no haber podido, por varias razones, amoldarse a esta sociedad. Por ejemplo, la gente que no tiene la posibilidad, porque ha perdido un trabajo, de tener papeles. La gente que no tiene la posibilidad de tener un trabajo que le dé para alimentarse y para enviar a su familia. En eso sí, que se puede hablar de duelo migratorio, pero cuando hay un fracaso personal de la persona. Otra cosa es que tú quieras viajar para ir a vivir a otro país, que sea para estudiar, que sea para trabajar. Yo creo que en este caso el consejo los daremos más o menos todos el mismo. Es muy interesante pues tener ya pistas sobre la sociedad donde vas, culturalmente, cómo se te acoge. Así que yo creo que la primera cosa, si quieres, pero ir a instalarte en otra comunidad cultural, lo primero es informarte y ver un poco cómo se relaciona esta gente, cómo vive y qué posibilidades tienes tú de poder entrar también en esa sociedad.
J'ai vu que des lois internationales garantissent une nationalité et le droit de migration à tout individu. Et j'ai vu comment ces lois n'étaient point respectées. J'ai ressenti de l'étonnement, suivi d'indignation, car nul ne peut garantir la défense de ces lois, pourtant adoptées par l'ONU. Qui éviterait tant de malheurs aux migrants qui, désespérés, recherchent une vie meilleure pour eux, leur famille et leur descendance?
J'ai vu des personnes qui ont subi les mêmes choses que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire une migration d'un pays à l'autre. Une adaptation loin d'être facile. L'apprentissage et la maîtrise d'une langue qui n'est pas la leur, la découverte d'une culture différente. J'ai ressenti de l'empathie pour ces gens. J'ai éprouvé une certaine joie en voyant qu'ils n'étaient pas seuls, mais cela m'a mené à un questionnement. Pourquoi se regroupent-ils entre migrants? Ne devrions-nous pas faire un effort supplémentaire pour les intégrer complètement? Pour former des communautés mixtes et multiculturelles?
Entre dos aguas m'a définitivement convaincu que l'éducation est l'antidote pour délivrer la société du venin qu'est le racisme. L'éducation passe aussi par l'art. À la fin du spectacle, nous avons pu parler avec les comédiens, leur poser des questions plus précises et plus personnelles. Chaque comédien a répondu. Voici des extraits de cette table ronde.
Aunque estéis muy lejos de donde estabais antes y diferentes culturas y todo, ¿seguís haciendo las mismas costumbres y las mismas culturas, comiendo lo que en vuestro país comíais?
Bueno, las mismas costumbres, no puedo decir que tenía alguna costumbre, porque toda la vida estoy buscando mis costumbres personales. Y cada día hay otra cosa que otro día.
No es complicado, pero el tema es que hay una diferencia al nivel de la cultura, de lo que tenía ahí y de lo que encuentro aquí, aunque tenía ya una idea de lo que hay aquí, pero cuesta también acostumbrarse. Entonces, cada día, cada uno intenta de ponerse en el ritmo y seguir adelante, porque la última solución es poder seguir adelante sin volver atrás, claro.
Sí, sobre eso, a mí me llama mucho la atención una cosa mía, que es que desde hace unos años había dejado de escuchar música de allá, por ejemplo. Y me he dado cuenta de que era una manera de no tener añoranza del lugar, lo que llama saudade en Brasil o en portugués en general. Decidí de manera inconsciente dejar de comer cosas de allá. No porque no me gustara más, sino que me he dado cuenta, volviendo más y más a menudo, porque ahora con el teatro estoy pudiendo hacer trabajos que me permiten estar aquí y allá, y me he dado cuenta de que lo echaba de menos, pero que era una manera de inhibir el sufrimiento. O sea que sí que lo necesitamos. Ya, por ejemplo, hay una raíz en Martinica que se llama ñame, iñam, y no se encuentra, se encuentra yuca. Entonces, cuando me acuerdo, pues compro yuca. Pero cuando voy a Martinica, de repente es como, es que no tiene nada que ver, o sea, yo quiero ñame. Es la lucha para no sufrir.
Yo tengo una pregunta para Cristian. ¿Por qué has querido venir aquí a España y no, por ejemplo, a cualquier otro país de la Unión Europea?
Bueno, si te lo digo, puede ser que no me crees. Tuve una revelación. He soñado que me voy a España. Esta fue todo. No elegí. Y bueno, fue algo que favorecía el lugar porque alguien estaba aquí, no lo conocía, la persona que me podía facilitar algunas informaciones, porque he venido aquí sin tener a nadie. Y así fue.
¿Qué motivaciones os han llevado a representar esta obra?
Cuando me invitaron, yo no sabía que era una obra que yo iba a tener que interpretar. Me hablaron que era un proyecto de una persona de Martinica y que sería sobre la inmigrantes, y sí, me interesó muchísimo. Yo tenía poquísimo tiempo de España, de Barcelona, y me interesó mucho hablar sobre mi duelo y sobre lo que sentía. Y otra, que también busco me integrar mucho en la sociedad. Entonces, todas las actividades que me invitan, yo voy y quiero participar y quiero aprender mejor el castellano, o sea, y el catalán. Y cuando empezamos a hacer trabajo con ella, que ella habló que después íbamos a interpretar, yo... Nunca tenía trabajado en teatro, entonces quedé así un poco, ¿será que entro, será que no entro? Bueno, qué suerte que entré, porque es toda una realización. A mí me encanta hacer, ¿no?, esta obra, los compañeros, o sea, nos tornamos amiguísimos, y sobre todo el mensaje que esto pasa. O sea, que esta obra pasa, es lo más potente, es lo que más me gusta y me encanta hacerlo.
Yo creo que participar en esta obra me ha enseñado a agradecer, a ser muy agradecida con lo que tengo, porque cada vez que la interpreto me doy cuenta de cuántas carencias hay en el mundo, o sea, de lo afortunado que somos todos realmente. Y yo creo que tenemos que dar a conocer todo esto que está pasando, porque es real, existe. No tenemos que dar la espalda a cosas tan humanas como esta, ¿no? Cierta, o sea, eso está pasando. En el mundo están pasando cosas y tenemos que participar y tenemos que difundir y tenemos que ser muy agradecidos con la vida que tenemos.
Nous avons eu ensuite l'occasion de rencontrer au lycée la metteuse en scène Adeline, qui a répondu à nos questions.
Il y a plusieurs aspects au niveau artistique, au niveau du concept, de la forme en fait. il y avait quelque chose en moi qui voulait faire un spectacle dans le genre. Et en allant faire un cours d'écriture et d'analyse dramaturgique à la Sala Beckett, c'est une salle de théâtre alternatif à Barcelone, ce qu'on entend par nouvelle dramaturgie, c'est tout ce qui est déconstruction du texte. Normalement, quand vous allez voir une pièce de théâtre, c'est assez linéaire. Mais vous pouvez commencer à utiliser les pièces de théâtre pour pouvoir voyager dans le temps, avoir une sensation peut-être plus cinématographique ou marier des langages pour pouvoir parler de quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du psychique et revenir à quelque chose de terrénal. Faire changer l'ordre des scènes parce que ça permet de créer une ambiance différente. Ça permet de faire un peu d'investigation, non ? Dans la psyché ou dans les effets, enfin bon. Et cette personne m'a fait découvrir des compagnies de théâtre ici, mais surtout allemandes et anglaises, qui justement travaillaient le théâtre documentaire. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était ce que je cherchais. Ensuite, au niveau du sujet, moi, comme vous savez, je suis martiniquaise. Et je ne sais pas si je vous avais expliqué, il y a 3-4 ans, j'avais envoyé un dossier parce qu'en Martinique, il y avait une initiative de la part du président de la région de Martinique qui voulait permettre aux jeunes de revenir implanter des entreprises en Martinique. Et donc, il essayait de faire revenir le savoir en Martinique. Et j'ai été une des rares à proposer une structure artistique là-bas. Et donc, ils ont décidé de donner un appui à la création d'entreprises là-bas. Le premier sujet que je voulais aborder avec cette entreprise, c'était une comparaison de l'évolution socioculturelle en Martinique et à Barcelone. C'est un truc qui va me prendre toute la vie, mais je pensais que je pouvais le faire en un projet. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence par moi. Et en commençant par moi, c'était aussi commencer par mon quartier. Et commencer par mon quartier, c'était Poblenor, mais aussi mon île. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en commun avec des gens de mon quartier ? Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence à accepter d'être une immigrée et de parler de moi en tant qu'immigrée et pas seulement en tant que Française qui vient là. Je suis Française avant d'être noire, zut ! Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait encore énormément de travail et que la manière de me réconcilier avec ces points en commun avec les immigrés, c'était de leur donner la parole.
Le choix de travailler avec des comédiens amateurs.
Pourquoi avoir maintenu ce dispositif, que ce soit les personnes qui avaient témoigné, qu'ils soient eux-mêmes les acteurs ?
Pour moi, c'est important que cette pièce, dans la forme, soit professionnelle, mais que dans la faction, fasse un lien fort avec les gens de la rue. C'est-à-dire que voir quelqu'un sur scène qui n'a jamais fait de théâtre parler de sa propre vie nous donne à chacun le droit de nous poser des questions sur notre propre vie, poser des questions à nos voisins sur leur propre vie. Ce n'est pas fictif, c'est-à-dire que c'est du vrai. Quand un comédien vient interpréter l'histoire d'un autre personnage, il y a une part en nous qui nous dit de toutes les manières, c'est du théâtre. Là, c'est pas du théâtre. C'est du théâtre, oui, mais c'est pas du théâtre, c'est du documentaire. C'est du théâtre documentaire. C'est théâtre par rapport à la forme, mais le fond, c'est du documentaire. Et pour moi, c'est important ça parce que on se retrouve à avoir des vraies conversations. Quand les comédiens descendent de scène, les gens qui viennent leur parlent de personne à personne, pas de comédien à personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils disent merci, merci, moi je ne sais pas si j'aurais pu monter sur scène, mais merci d'accepter de nous représenter.
¿Por qué decidiste ponerle este título a la obra?
Pues eso tiene muchos significados. Sí, sí. Puede ser, pues, desde un punto de vista más geográfico, entre dos continentes.
Estamos entre dos aguas. Cuando no conseguimos despedirnos de algo y ya estamos metidos en otra cosa, cuando tú necesitas, por ejemplo, vas a un supermercado y tienes que elegir entre dos cosas. Y no te acabas de decidir, estar entre dos aguas. En el caso de la migración, es el hecho de estar desarrollando su vida en un sitio cuando parte de tu corazón sigue estando allá.
Hay una amiga que vino a ver la obra una vez y que me dijo, pues no estoy de acuerdo con eso de estar entre dos aguas, porque yo estoy en dos aguas. Ella es japonesa, lleva años aquí, y yo me dije, wow, ojalá tuviéramos la suerte todos de haber conseguido hacer este trabajo de desapego al pasado, como para que su presencia en nuestras vidas no nos tambalee y que estemos todos en dos aguas y no entre dos aguas.
Après avoir vu Entre dos aguas, qui nous a transmis des témoignages et des émotions personnelles, nous avons pu écouter le chercheur Karim Jouté qui nous a apporté l'aspect scientifique et historique sur ce thème. Nous avons pu avoir plus d'informations sur la question de la pluralité de l'immigration et aborder le thème avec une distance objective.
Un immigré, c'est ce qu'on a vu, est défini par son lieu de naissance, il restera toujours un immigré dans la société d'accueil. Et un étranger est défini par sa nationalité, il cesse de l'être dès qu'il acquiert la nationalité de sa société d'accueil. Moi, du coup, j'étudie l'immigration espagnole en Catalogne. Y la pregunta es, un espagnol né hors de Catalogne, qui vit à Barcelone, est-il un immigré ? Donc, moi, je mets toujours des guillemets quand je parle d'immigration espagnole, parce que ce ne sont pas des immigrés. Mais je fais une thèse sur l'immigration espagnole en Catalogne, parce qu'ils sont considérés comme des immigrés tout au long du XXe siècle. Il n'y a donc pas d'immigrés espagnols en Catalogne, mais, et ça c'est important, il y a une représentation de l'immigré espagnol en Catalogne, tout au long du XXe siècle, qui sont désignés ainsi. C'est très important de différencier ce que sont les gens et ce qu'on dit des gens ou comment on désigne les gens. Je me demande pourquoi ces gens qui n'étaient pas immigrés ont été désignés comme tels. L'immigration espagnole, elle commence en 1878 que le solde migratoire devient positif en Catalogne. Ça veut dire que c'est en 1878 qu'il y a plus d'Espagnols qui rentrent que des Catalans qui sortent. Et cette migration s'arrête vers les années 70-80. Je vous donne des chiffres pour que vous vous rendiez un peu compte. En 1930, 20% de la population qui habite en Catalogne n'est pas née en Catalogne. En 1970, on passe à 38%. C'est 38% des personnes vivent en Catalogne qui sont nées en Espagne. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup ? Vous pensez quoi de ce chiffre ? La Catalogne a attiré beaucoup parce que, en fait, elle a eu une croissance industrielle précoce par rapport au reste de l'Espagne. Et donc, elle avait, ses industries fonctionnaient beaucoup mieux et a attiré beaucoup de main-d'œuvre. Donc, elle avait besoin de main-d'œuvre. La première vague entre les années 15 et les années 30 est arrivée parce qu'il fallait construire le métro. La construction a débuté en 1924. Le métro à Barcelone, il faut de la main-d'œuvre pour le construire. Donc, il y a eu une sorte d'appel d'air. Et il y a eu aussi l'exposition universelle de Barcelone, vous connaissez ? Qui a eu lieu en 1929. Et pareil, pour l'exposition, il faut construire des bâtiments. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Des familles entières qui migrent. Et en fait, il y a des villages entiers qui migrent. Il y a le curé qui part à Barcelone, tout le monde le suit. Il y a des villages qui se dépeuplent et qui se reconstituent dans la périphérie de Barcelone. Et une chose que les gens ne savent pas, en général, c'est que l'immigration espagnole en Catalogne, elle a été interdite. Elle a été clandestine dans les années 50.
Notre émission s'achève ainsi. Nous remercions Adeline, sa troupe et Karim Jouté pour le temps qu'ils nous ont consacré et pour le partage de leur vision de l'immigration.
Au revoir et à bientôt sur Planète Radio.